Reportage au domaine de Château de Clapier avec Thomas Montagne. Vous pouvez nous présenter votre domaine ?
Écoutez, bonjour, bienvenue au Château de Clapier. Effectivement, c'est un domaine qui est familial depuis 1880. Autrefois, ça appartenait au marquis de Mirabeau jusqu'à la Révolution. Et puis, donc, à la Révolution, bien sûr, les biens des Mirabeau ont été confisqués par l'État. Ça a été revendu comme bien national à un Suisse, un monsieur Morel. D'ailleurs, on trouve la statue de François Morel au bas du cours de la République à Pertuis. Et puis, après, c'est rentré donc dans ma famille en 1880. Depuis lors, c'est donc la famille Montagne qui exploite le château de Clapier. On a entre 35 et 40 hectares de vignes, aussi des grandes cultures céréalières. Et nous sommes ici dans un climat un peu particulier, juste en dessus du pont de Mirabeau, donc où la vallée de la Durance est très resserrée et ça implique un climat assez froid. Par exemple, il n'y a pas d'olivier qui pousse chez nous. C'est curieux, mais c'est comme ça, alors qu'un peu plus haut vers Manosque, par exemple, vous avez de nouveau de l'olivier, bien sûr. Mais ici, l'hiver est très froid à cause de l'influence de la Durance et donc de ce verrou, un petit peu verrou climatique que représente la clue du pont de Mirabeau. Et donc, ça implique aussi pour les cépages et pour la vigne un climat particulier et des vins après qui sont un petit peu particuliers. Nous sommes ici dans l'appellation Luberon, à AOP Luberon. J'ai à la fois donc des vignes pour faire du vin de Luberon. J'ai aussi d'autres vignes avec lesquelles je fais de l'IGP, IGP Méditerranée, et je fais aussi des vins de table. J'ai les trois zones, réglementaires, vin de table, IGP, AOP.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie IGP et AOP ?
Alors, l'AOP, c'est en principe le dessus, le haut de la pyramide de la viticulture en France, c'est l'appellation d'origine protégée. Donc c'est un vin particulier qui est produit sur un terroir assez délimité, pas très grand en général, avec une certaine cohérence de climat et de terroir et de sol, avec des cépages bien déterminés et avec des manières de faire bien déterminées. L'IGP, l'indication géographique protégée, c'est un peu le même système, mais beaucoup plus vaste sur des terroirs qui sont beaucoup moins typés, puisque là on parle d'une région. En fait, quand je fais l'IGP Méditerranée, ça va depuis Nice jusqu'à Arles, vous voyez, en remontant la vallée du Rhône. Donc c'est un très grand territoire, plutôt qu'un terroir, et des cépages beaucoup plus variés. Et généralement, davantage de rendement aussi. Donc souvent, l'IGP est un petit peu moins structuré, concentré que l'AOP, et c'est la deuxième partie de la pyramide qui est un peu plus vaste. Et tout en bas, vous auriez les vins de table, qui eux ne se réfèrent pas du tout à un terroir ni à un territoire, même si de fait, en ce qui me concerne, le vin de table que je produis est fait chez moi, par moi, sur mon territoire, mon terroir. Donc je sais exactement comment il est produit.
Vous pouvez nous préciser les différents vins que vous produisez ?
Alors j'ai une douzaine de vins différents, donc une gamme assez large finalement. Les deux gammes principales sont la gamme Vibrato, donc je parle en AOP, là, AOP Luberon, et la gamme Soprano. Vibrato, on est plutôt sur des vins un peu plus dans la fraîcheur et la vivacité, avec de la vinification et du vieillissement en cuve exclusivement, alors que Soprano, on est sur des vins qui sont plus concentrés, plus denses, avec un élevage ou même une vinification en barrique. Donc là, on les a, ces deux cuvées, en rouge, rose et blanc à chaque fois. Après, toujours dans l'AOP, j'ai une autre cuvée haut de gamme que je ne fais qu'en rouge, qui s'appelle Tessiture, qui est un vin très concentré, un vin de garde aussi, actuellement vendu 2015, et ça a encore 5 à 10 ans devant soi sans problème. C'est un vin de gibier, je dirais, quelque chose de vraiment riche et puissant, un vrai vin de gastronomie. Après, en IGP, justement, j'ai une cuvée Concerto au bois, alors que l'on a nommé ainsi parce que c'est une cuvée qui est un petit peu boisée. Le vin passe 18 mois en barrique de chêne américain, qui donne un goût boisé assez prononcé. Et puis j'ai des cuvées plus simples, la cuvée Dixie Volupta en IGP toujours, Là, on est sur des assemblages Cabernet et Merlot, cuvée Caligrappe en rouge AOP, Grenache Syrah. Et donc, je reviens à ce que je disais au départ, le fait que mon climat m'autorise à avoir des cépages particuliers. Il se trouve qu'en Luberon, je suis le seul à avoir le droit d'utiliser du Pinot Noir. Le Pinot Noir étant un cépage bourguignon à l'origine, il n'est pas vraiment habituel dans le sud de la France. Mais justement, mon père en avait planté parce qu'il pensait qu'il irait bien avec le climat froid que nous avons ici, et il ne s'est pas trompé. À l'époque où il l'a planté, en 1983, on n'était pas encore AOP, c'était une autre strate juridique qui s'appelait VDQS, vin délimité de qualité supérieure, qui n'existe plus maintenant. Donc c'était VDQS Coteaux du Luberon. Et à l'époque, dans ce VDQS, le Pinot Noir était autorisé. Après, en 1988, on est devenu AOP, et à ce moment-là, le Pinot Noir a été retiré du décret de l'appellation. On n'a plus le droit d'en planter, mais ceux qui en avaient à ce moment-là ont eu le droit de le conserver pendant 50 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2038, en fait. Voilà, donc j'ai toujours ces vignes de Pinot Noir, j'en ai 2 hectares, et je m'en sers avec joie et intérêt, parce que ça permet de modifier considérablement les assemblages de mon rouge Luberon. Déjà dans Vibrato, vous avez 5% de Pinot Noir, et curieusement, même à cette petite quantité, ça modifie énormément l'assemblage. Le reste, c'est Syrah Grenache. Si vous voulez, vous avez une base Syrah Grenache qui est un vin fruité, sympathique, agréable, mais qui manque peut-être un petit peu de densité. Et quand vous rajoutez ces 5% de Pinot Noir, vous avez une longueur en bouche, une intensité aromatique, une élégance qui apparaît tout de suite, sans pour autant que le vin soit très tannique, parce que le Pinot Noir n'est pas non plus un cépage tannique. Donc vous restez sur un vin facile à boire, mais très complexe et très long en bouche. Après, sur Soprano, on monte à 15-20%, mais alors là, avec des vins plus structurés, plus tanniques et un vieillissement en barrique. Donc sur le rouge Soprano, on a aussi beaucoup de longueur en bouche, beaucoup de puissance. Et sur Tessiture, on va jusqu'à 25% de Pinot Noir.
Nous avons bien compris, enfin en tout cas les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral auront bien compris que vous êtes vraiment un passionné, un spécialiste, vous avez beaucoup de connaissances. Ça donne envie de venir faire une visite. Comment ça se passe actuellement les visites de dégustation? Y en a-t-il? Comment est-ce que vous vous adaptez par rapport à la crise sanitaire?
Alors, habituellement, on vendait énormément sur place. On a une petite boutique de vente là, au domaine, qui est ouverte tous les jours sauf le dimanche. Et c'est vrai que là, bien que nous soyons autorisés à rester ouverts, il y a très peu de monde qui passe. C'est un petit peu morne. Les gens préfèrent acheter dans les magasins où je suis distribué localement. Et on attend que le tourisme revienne avec impatience. Donc en principe, on ne fait plus de dégustation, c'est pas formellement interdit, mais on nous a déconseillé d'en faire. Donc après, quand quelqu'un arrive et souhaite déguster, je peux éventuellement ouvrir une bouteille. C'est très plaisant pour nous de faire partager le fruit de notre travail, et puis parler d'un vin, c'est sympa, mais le déguster, c'est quand même beaucoup mieux. Alors pour revenir encore à cette fameuse crise sanitaire, nous, ce qui nous fait beaucoup souci, c'est la fermeture des restaurants, naturellement. Je pense que tous nous attendons avec impatience de pouvoir de nouveau sortir tranquillement entre amis, en famille. Mais pour nous, il y a aussi un impact économique important, parce que la restauration, les CHR, c'est un tiers pratiquement de notre chiffre d'affaires. Donc ça s'est un petit peu reporté sur d'autres canaux de distribution, notamment les cavistes, mais pas complètement. Donc là, c'est clair que nous avons perdu du chiffre d'affaires et on se languit d'un retour à la normale.
Est-ce que votre production est distribuée uniquement régionalement et localement, dans les restaurants, dans certains magasins, ou est-ce que vous allez au-delà de la région, et voire même du pays ?
J'exporte un tout petit peu, mais pas beaucoup. On travaille avec le Québec notamment, j'ai un petit importateur aux États-Unis, un autre en Allemagne, mais c'est pas grand chose pour moi. La vente est essentiellement de la vente directe sur place au domaine, enfin je dirais était, puisque là maintenant c'est devenu un peu compliqué, de la vente dans la très régionale auprès des CHR, des restaurants locaux, des supermarchés locaux aussi, qui sont des clients importants pour moi. Des cavistes, bien entendu, quelques grossistes, mais c'est beaucoup du local quand même.
Est-ce que la cave peut être visitée?
Alors oui, on peut éventuellement faire visiter les caves, notamment si moi je suis présent quand vous passez, c'est avec grand plaisir. Et nous avons notamment une vieille cave en fait qui date de 1880, quand mon arrière-grand-oncle a acheté le domaine. Il avait construit quelque chose d'assez impressionnant. Il y a une batterie de 12 foudres. Alors les foudres, c'est des très grosses barriques qui font la plus grosse fait 240 hectolitres, c'est-à-dire 24 000 litres, c'est très très gros. Et ces foudres sont toujours en place, et donc c'est très intéressant à voir. Alors il y avait aussi une machine à vapeur qui n'existe plus maintenant malheureusement, mais qui permettait de faire fonctionner tout ça. Enfin, c'était ultra moderne en 1880.
Un lieu à déguster, mais aussi un lieu où on peut visiter les caves.
Voilà, et puis venir, on organise, l'été dernier, on va refaire ça cette année, des pique-niques dans les jardins du château. Habituellement, on faisait ça de manière plus, à table, carrément. Maintenant, c'est pas possible pour le moment, mais là, le jardin étant assez vaste, on a fait l'été dernier, et on va refaire ça cette année. Des pique-niques où chacun peut venir, on fournit une nappe et vous pouvez vous installer sur l'herbe de manière à respecter les distances sanitaires et ne pas prendre de risques. Le site c'est château-2-clapier.com et vous pouvez nous appeler aussi au 04 90 77 01 03.